Et quel privilège encore de pouvoir vous apporter la parole ce matin. Je suis tellement heureux de voir l'église remplie aujourd'hui. Merci d'être là. Puis je prie que ce dimanche puisse parfaitement conclure la magnifique semaine qu'on a eue. Parce qu'on a eu un magnifique début de semaine, right? Ok, il y en a peut-être la moitié qui a encore oublié. Première réunion, c'était pareil, c'est pas grave, je vais le rappeler au cas où si vous l'avez oublié, si vous l'avez manqué. On a eu une éclipse en début de semaine. Ok, c'est quelque chose ça. Qui a vu l'éclipse ce matin? Il y a quand même une grande majorité. Non, peut-être pas ce matin, mais présent dans la salle ce matin, qui a vu l'éclipse? On s'entend-tu que c'était quelque chose d'extraordinaire de vivre un moment comme ça? C'était juste magnifique, c'était waouh de voir un moment tellement marquant. Ça arrive rarement là, et puis on est tellement bénis d'avoir pu profiter. En plus, la météo était parfaite, c'était extraordinaire. Puis moi, ce que j'ai trouvé vraiment impressionnant au sujet de l'éclipse, c'est toute l'effervescence qui a pris place autour de l'éclipse. C'est quand même quelque chose là, on en parlait constamment, même pendant l'éclipse, je recevais des notifications sur mon téléphone en mode « Il y a l'éclipse !» Et sans blague, je la vois. Même après, on n'a pas arrêté d'en parler, c'était un moment d'excitation, un phénomène en Amérique du Nord. C'est tellement fou. Rien qu'aux États-Unis, même, je voyais rien qu'aux États-Unis, avec la réservation des Airbnb, des hôtels et tout ce qui a pris place autour, il y a à peu près, on a estimé que l'éclipse a rapporté près de 6 milliards de dollars à l'économie. C'est quelque chose quand même. 6 milliards, c'est énorme. Il y avait une personne qui a même réservé sa chambre d'hôtel 4 ans à l'avance. 4 ans à l'avance. Ce monsieur était à l'avance, vraiment là. Il y a un autre propriétaire d'un autre hôtel qui disait que d'habitude, on est plus à 80 réservations dans cette période-là. Là, on en était à 900 réservations de la nuit de dimanche à lundi. Pour des nuitées à près de 500 pièces, la chambre. Ce qui est fou, c'est de voir que les gens ont mis des milliers de dollars pour un événement qui était beau, mais des milliers de dollars pour quelque chose de magnifique, mais qui finalement ne changera pas leur vie. J'ai lu des articles comme quoi, des articles surtout aux États-Unis, où est-ce qu'ils parlaient, dans une Amérique divisée, c'était beau de voir l'Amérique unie ensemble devant un tel phénomène. Ouais, mais le lendemain, le mardi, la division reprenait. Le lendemain, on reprenait notre vie, on reprenait nos habitudes. L'éclipse ne nous a pas changé. L'éclipse ne nous a pas changé. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que des personnes ont investi des milliers de dollars. Ils ont dépensé énormément d'argent pour quelques secondes de bonheur. Puis je ne juge pas parce que c'était magnifique de voir l'éclipse. C'est magnifique de voir l'éclipse. C'était quelque chose d'extraordinaire. Je ne critique pas, mais je constate parce que ce n'est pas juste l'éclipse qui est le problème. C'est la façon dont on gère nos dépenses. On est dans une société dans laquelle nous sommes doués pour dépenser. Il y a des hommes, je suis sûr que vous pouvez lever la main en disant « Moi, ma femme, elle est douée pour trouver toutes les semaines des nouvelles affaires à acheter. » Elle est douée pour toujours trouver quelque chose qu'elle n'avait pas. Et elle est douée pour encore trouver de la place pour ranger ses nouvelles affaires. Il y en a qui sont doués pour trouver des nouvelles dernières technologies, les acheter. Toi, peut-être t'es doué dans ta façon de trouver des bonnes affaires. Oh, les bonnes affaires. Les moins 50%, wouh, je suis le premier. Moins 75%, ah, j'y vais. Les deux acheter le troisième offert, alléluia, le ciel sur terre. On est doué quand il s'agit de dépenser notre argent. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la Bible, il n'existe aucun verset qui nous appelle à être doués dans le magasinage. Il n'existe aucun verset qui nous apprend, qui nous dit « Soyez bons dans le fait de trouver des bonnes affaires dans votre quotidien. » Il n'existe pas de verset dessus. Par contre, la Bible nous appelle constamment à être doués dans notre façon de donner. À être doués dans notre générosité. Puis c'est ce dont on va parler ce matin. On va parler de générosité ce matin. Et vous savez, si on aborde 2-3 fois par an ce thème de la générosité à l'église, c'est parce que nous croyons que la générosité, c'est une preuve que nous sommes des disciples de Jésus. C'est une preuve que nous suivons l'exemple de Jésus. Et le don est au centre même de notre foi. Il y a quelques semaines de ça, on a célébré Pâques. Ouais, ça passe vite, Pâques. Il y a quelques semaines de ça, on était à Pâques. Et à Pâques, qu'est-ce qu'on célèbre ? On célèbre le jour où Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné. Le don est au centre de notre foi. Et Dieu nous a sauvés pour qu'on soit ses disciples, pour qu'on soit ses élèves. Et on est appelé à grandir en tant que disciple, à grandir dans notre foi, à évoluer dans tous les domaines de notre vie, un jour à la fois. Et la générosité fait partie de notre croissance. Ça fait partie de notre évolution en tant que disciple. Et le titre de mon message ce matin, passe au prochain niveau. Si on veut grandir dans notre foi, si on veut, on veut s'améliorer, devenir de meilleurs disciples, il faut qu'on passe des niveaux. Il faut qu'on franchisse des niveaux. Un petit peu comme quand on joue sur les consoles de jeux, il y a toujours des niveaux à passer pour atteindre le boss final. Sauf que là, il n'y a pas de boss final. Mais en tout cas, c'est toujours des niveaux à surmonter. Et il existe trois niveaux de dons. Trois niveaux dans lesquels Dieu nous appelle à progresser, à avancer, à passer d'étape en étape. Trois façons de donner, trois niveaux différents. Et chaque niveau va révéler notre maturité spirituelle. Chaque niveau va révéler notre maturité spirituelle ce matin. Est-ce que vous êtes prêts? Il n'y a pas beaucoup qui a dit oui hein, ce matin, c'est pas grave. Je m'attendais bien à ça, c'est pas grave. Je vais vous convaincre. Première étape. Premier palier, c'est le don spontané. Autrement dit, c'est agir sans prendre de réflexion, sans prendre un moment de réflexion. Autrement dit, quand je vois un problème, j'agis, je donne, j'investis. Quand j'entends un appel pour une cause particulière, ok, j'y vais. C'est un peu à l'exemple de la parabole du bon samaritain. Si vous ne connaissez pas cette parabole, c'est Jésus qui raconte une histoire. Il raconte l'histoire d'un un jour qu'un homme a pris la route. Et sur sa route pour aller, on sait pas trop, au travail, à sa job, bref, sur sa route, il se fait carjacker, ok? Il se fait agresser dans le métro, il se fait carjacker, peu importe, et des agresseurs viennent tout lui voler, ils le frappent, ils le laissent presque mort au bord de la route. Et dans la parabole, Jésus raconte qu'il y a deux religieux qui vont se succéder l'un après l'autre et qui vont passer à côté de ce pauvre homme, sans s'arrêter. Passe à côté. Et Jésus dit au verset 33, « Mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de compassion. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin et le recouvrit de pansements. Puis le chargeant sur sa propre mule, il l'emmena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit deux pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit, « Prends soin de cet homme et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je le repasserai. » Ce qui est intéressant de voir, c'est que le Samaritain a vu la souffrance. Il s'est arrêté et il a pris soin des blessures de cet homme. Il a pris soin de ses blessures, il l'a amené à l'hôtel. Puis en plus de ça, non seulement il l'a amené à l'hôtel, mais il lui a payé un tout inclus à l'hôtel. Et il lui a payé le spa, le hammam, le jacuzzi, les massages, le petit déjeuner avec les croissants, le bacon bien chaud. Il a tout payé. Parce qu'il a vu cet homme en souffrance, et spontanément il agit. Spontanément il agit. Et il y en a, vous êtes à cette étape. Vous ne donnez pas de façon régulière, vous ne donnez pas de façon régulière, mais dès qu'on entend une action particulière pour donner, dès qu'il y a une levée de fonds spéciale, ok, là vous participez, là vous donnez. Comme un peu ce qu'on a fait l'année dernière, il y en a qui ont participé à la levée de fonds qu'on a faite l'année dernière pour la fête des mères. Ou pour la fête des mères, on a décidé de faire une levée de fonds pour aller offrir des cadeaux à des mamans qui sont dans une maison de naissance à Châteauguay. Dans cette maison de naissance, c'est des femmes qui n'ont plus rien financièrement et elles viennent d'avoir un bébé, elles sont abandonnées par tout le monde et elles ont besoin d'aide. Et cette maison vient les soutenir, vient les équiper. Et puis nous, on a fait une levée de fonds pour leur offrir un beau paquet cadeau avec plein de produits beauté, plein de belles choses à l'intérieur. Et plusieurs participent spontanément à ça. D'autres, tu es spontané dans tes dons selon si le pasteur a été bon un dimanche. Selon si le pasteur a été cool, il a fait des jokes, il n'a pas parlé de générosité, il a prêché de ce qui me parlait. Selon si la louange a été bonne, ce matin elle était hot. Là, ok, je mets mon petit tips. Ok, là ça valait la peine. Je vais les encourager, là je donne. Ou alors quand tu te promènes à Montréal et qu'à un moment donné, à un coin de la rue, tu vois un itinérant, puis là, spontanément, tu donnes parce que tu es touché de voir cet homme-là en difficulté et dans l'épreuve. Et peut-être que certains sont à cette étape de don, à l'étape de la spontanéité. Et c'est bien d'être à cette étape, c'est une première étape, c'est super. Maintenant, c'est comme si tu étais au niveau primaire. Au niveau, dans l'école, dans le discipulat avec Jésus, c'est comme si tu étais à l'école primaire. C'est bien d'être à l'école primaire, mais il est temps de passer au secondaire à un moment donné. Et tant de grandir, tant de passer à l'étape supérieure, sinon ça veut dire qu'il y a un problème avec ta maturité. Il y a un problème avec ta croissance spirituelle. Parce que le don spontané ne fait pas de toi quelqu'un de généreux. Et malheureusement, plusieurs n'arrivent pas à progresser dans leur foi, à progresser dans leur vie spirituelle parce que vous restez dans ce palier-là. Parce que vous ne savez pas comment passer au palier suivant. Parce que vous ne voulez peut-être pas passer au palier suivant. Parce que vous ne savez pas de quelle façon passer au palier suivant. Et vous ne savez même peut-être pas qu'il y a un palier suivant. Mais ce matin, je vais vous encourager à ne pas rester à votre palier et à passer au secondaire. Et la deuxième étape, c'est le don stratégique. Nous sommes appelés à être stratégiques dans notre façon de donner. On ne peut pas juste vivre sous l'émotion. Oh, quand ça me parle, quand j'ai des papillons dans le ventre, ok, là je donne. On ne peut pas juste donner selon nos émotions. Tout comme pour notre vie de prière. Si on veut une vie de prière encore plus proche avec Dieu, on ne peut pas se dire « je vais prier quand j'en aurai envie » parce qu'on ne va jamais prier dans ce moment-là. Quand on veut une relation avec Dieu, on comprend vite qu'il faut une discipline de vie de prière parce qu'il y aura des matins, on n'aura pas envie de prier. Il faut qu'on ait une discipline de vie de prière en mode « à telle heure, tous les jours, je vais prier tel moment, telle minute, pour tel sujet, je me discipline pour développer ma vie de prière. » Et c'est exactement la même chose pour la générosité. On ne devient pas généreux en sortant du lit un matin. « Oh, je suis généreux !» On apprend à devenir généreux. C'est stratégique. On doit développer la générosité. Il faut se préparer pour être généreux. Comme ce matin, il y a plusieurs qui sont en train de se préparer pour voir leur voyage cet été. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu prépares tes vacances à l'avance. Comme tu prépares tes futures dépenses pour tes futurs projets, l'achat d'une maison, l'achat d'une voiture, tu prépares tout ça. Mais là, c'est la même chose ici. Il faut se préparer pour être généreux. Devenir généreux, ça se planifie aussi. C'est pour ça que la Bible nous dit en Proverbe 3, verset 9, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Alors tes greniers seront remplis abondamment et tes cuves déborderont de vin nouveau. » Honore l'Éternel avec le premier de tous tes produits. Si tu veux savoir comment on passe de la primaire au secondaire à l'école du disciple de Jésus, c'est quand on prévoit de donner à Dieu en premier. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que dès que tu reçois ta paye, soit par semaine, deux semaines, par mois, peu importe, dès que tu reçois ta paye, avant de dépenser quoi que ce soit pour ton loyer, pour ton hypothèque, pour ton abonnement Netflix ou Spotify, la première chose qui sort, Seigneur, c'est pour toi. Je te donne la première chose. C'est pour toi, je veux te l'offrir à toi. Fait que pour être sûr de ne pas oublier, je prépare un virement régulier. Pour être sûr de ne pas oublier, mon enveloppe, elle est prête à être ramenée au dimanche prochain. J'attends pas, c'est prévu, c'est calculé dans mon agenda, c'est programmé, je suis stratégique, je suis organisé, je suis préparé pour mettre Dieu en premier. Maintenant, peut-être que tu dis, ok, c'est intéressant. Intéressant l'idée de mettre Dieu en premier, ok, je comprends, mais sois plus concret, pasteur. Combien est-ce que je dois donner? Paul nous dit en 2 Corinthiens 9, verset 7, que chacun donne, généralement on oublie cette partie-là, que chacun donne, comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. On peut pas te forcer de donner à tel montant, le principal c'est que tu donnes et que tu donnes avec joie. Maintenant, peut-être que tu es nouveau, ok, je comprends le principe, ça m'intéresse, mais sois plus concret, pasteur. Donne-moi un point de départ, donne-moi quelque chose sur lequel je pourrais m'appuyer un petit peu. Et pour t'aider peut-être, pour moi, le point de départ pour se préparer à la générosité, je dirais la dîme. Qu'est-ce que c'est la dîme? La dîme, c'est un principe biblique où le peuple est amené à apporter le premier 10% à Dieu. Dîme, c'est 10%. Et Lévitique 27:30 nous dit « Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. » Si pour toi, tu as besoin d'avoir un meilleur point de départ pour savoir combien donner, je dirais la dîme. Parce que la Bible nous dit que c'est consacré à l'Éternel, ça appartient à Dieu. Et là, je le vois sur vos faces. Que ça vous tente pas du tout. que vous n'êtes pas forcément d'accord, que tu dis non, mais tu ne mourras pas, pasteur. Ça, c'est l'Ancien Testament. On est dans le Nouveau. On ne vit plus sous la loi, mais sous la grâce. C'est vrai. C'est vrai. Mais j'aime tellement ce passage en Matthieu, chapitre 23, verset 23. Facile à retenir, 23-23. Où est-ce que Jésus se retrouve face à une gang de religieux qui donnent leur dîme. Ils sont parfaitement réguliers dans leur dîme. Ils donnent leur dîme, mais ils donnent avec un cœur fermé, un cœur froid, un cœur insensible, en délaissant les plus pauvres, en délaissant ceux qui ont des besoins. Ils s'en fichent. Non, mais nous, on donne notre dîme, on s'en fiche des autres, on donne notre dîme. Puis Jésus dit, mais vous ne comprenez pas ce que c'est la générosité. Prends soin du plus pauvre, prends soin de ceux qui ont de la difficulté. Puis Jésus rajoute, sans négliger le reste. Sans négliger ce que tu fais déjà, sans négliger ta dîme. Fait que si t'as un problème avec la dîme ce matin, t'as pas un problème avec pasteur Florian. T'as un problème avec Jésus. Et moi, ça me va très bien. Et c'est pas t'obstiner avec moi. Je te laisse t'obstiner avec Dieu. Et moi, je suis tranquille. Puis quand je parle de donner son premier 10%, c'est important, le premier 10%. On n'est pas appelé à donner le 10% des restants à la fin du mois. Mais les premiers au début du mois. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que quand on donne notre premier 10%, c'est comme si on disait à Dieu, j'ai pas la moindre idée de ce qui va se passer dans le mois. Je sais pas les factures. Je sais pas les imprévus. Je ne sais pas si la voiture va tenir. Je ne sais pas si ma laveuse va me lâcher ou pas. Je ne sais pas s'il y aura des imprévus financiers. Je ne sais pas la crise qui va me tomber dessus. J'en ai aucune idée. Mais en te donnant mon premier 10%, je te fais confiance pour prendre soin de moi. Je te fais confiance. Je te le donne. Peu importe ce qui va se passer, je te le donne. Puis je suis pleinement conscient là, alors que je prêche un message sur la générosité, je suis pleinement conscient du climat dans lequel on vit en ce moment. Je suis conscient de l'inflation, je suis conscient de l'augmentation des taux immobiliers, je suis conscient de l'augmentation des prix, ça n'a aucun bon sens. En fait, tout ce qui vous affecte, ça m'affecte aussi. Hein. Moi, je ne vis pas dans une tour dorée où tout se passe bien, où je vis dans un monde de bisounours, c'est plus extraordinaire. Si tu vis des difficultés, je les vis aussi. Je suis pleinement conscient de ça. Mais j'aimais ce que pasteur David Potier, pasteur de la chapelle à Montréal, a dit un jour. Il a dit, en cette période d'inflation, t'as pas les moyens de vivre avec ton 100%. Ça prend plus que ça. Il faut que Dieu multiplie ton 90%. Dieu est capable de multiplier ce que tu lui donnes. Dieu est capable. Il est capable de multiplier ce 10% que tu lui offres comme ça. Il est capable de te donner en plus en retour derrière. Dieu est capable de te bénir. Dieu est capable de te soutenir. Dieu est capable de ne pas t'abandonner. C'est 2 Corinthiens, c'est Paul qui nous dit en 2 Corinthiens 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et ce n'est pas dans un contexte d'agriculture. Paul ne s'adresse pas à des agriculteurs. Il s'adresse à des donateurs. Il s'adresse à des gens qui donnent. Autrement dit, c'est « sachez-le, celui qui donne peu, moissonnera peu. Mais celui qui donne beaucoup, qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence et qu'il augmente les fruits de votre justice. » C'est fort ça. Autrement dit, si tu lui fais confiance, Dieu va multiplier. Si tu lui fais confiance, Dieu va prendre soin de toi. Si tu lui fais confiance, il va te bénir. Puis, je ne fais pas l'apologie de la théologie de la prospérité en mode, si tu donnes et Dieu, il va te combler, il va te donner la maison de tes rêves, il va te donner la voiture de tes rêves, il va te donner... Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Quand tu donnes à Dieu, oui, peut-être qu'il va te donner financièrement. Mais peut-être que parfois, il ne va pas seulement te donner financièrement, mais il va te donner spirituellement. Tu vas réaliser qu'alors que tu vas commencer à donner, à lui faire confiance, spirituellement, ta vie va commencer à changer. Spirituellement, tu vas voir des transformations, tu vas te sentir encore plus proche de Dieu. C'est comme s'il y a une barrière qui s'est effondrée, et puis tu vas sentir que tu te rapprocheras de Dieu. Dieu pourra te bénir aussi émotionnellement. Dieu peut te bénir aussi relationnellement, c'est pas juste financièrement. Il peut prendre soin de toi dans tous les domaines de ta vie si tu acceptes de lui donner en premier. Tu auras toujours plus avec 90% de ton salaire et Dieu qu'avec 100% de ton salaire sans Dieu et toi. Tu auras toujours plus. Si tu veux grandir dans ta maturité, si tu veux grandir dans ta foi, si tu veux grandir en tant que disciple de Jésus, il faut que tu passes à l'étape stratégique. Prévois de donner régulièrement. Prévois de donner avec habitude. Prévois de donner ton meilleur à Dieu. J'aime ce que Simon Guilbeault a dit. Il a écrit un livre qui s'appelle « Zélé pour Dieu ». Puis il a dit dans son livre « L'idée de la dîme, c'est qu'elle vous coûte quelque chose. » Heureusement pour nous, Jésus ne s'est pas contenté de donner la dîme de son sang. On est appelé à donner notre meilleur parce que Jésus a donné son meilleur. Et là, il y en a, je sais, vous êtes en train de vous dire, mais attends, pasteur, 10%, c'est énorme. C'est gros, là. C'est beaucoup. 10%, ça veut dire que je vais devoir changer toute ma vie, toute ma façon de dépenser, toutes mes dépenses, toute ma façon de vivre, tout ça, je vais devoir le changer pour le centrer sur Dieu. Exact. C'est ça que ça veut dire ici. Matthieu 6, verset 21, c'est Jésus qui parle et dit « En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Là où tu donnes l'argent, c'est là où est ton cœur. Il faut comprendre ce matin, alors que tu m'écoutes depuis plusieurs minutes, ce matin, ce n'est pas un message pour que l'Église ait ton argent. C'est un message pour que Jésus ait ton cœur. Le but de mon message ce matin, c'est que Jésus ait encore plus ton cœur, qu'il ait encore plus de place dans ton cœur. C'est impossible d'être un disciple de Jésus sans mettre Jésus à la première place. C'est impossible. C'est impossible d'être un disciple de Jésus si tu ne mets pas en premier dans ton temps, en premier dans ton service, en premier dans ton agenda, en premier dans tes finances. C'est impossible d'être un disciple de Jésus. Il faut apprendre à réorganiser sa vie, non plus sur nos envies, mais sur Dieu, sur Jésus, sur lui seul. Réorganise ta vie sur Dieu ce matin. Passe à l'étape suivante. Passe au step suivant. Passe à l'étape du don stratégique, de la générosité stratégique. Ça, c'est la deuxième étape. Il y en a une troisième. Et je sais déjà que là, j'ai perdu presque 3/4% des gens. Il y en a une troisième. Puis là, il faut s'attacher parce que la troisième... Oh, elle est dure. Elle est dure. OK ? C'est comme si on passait du secondaire au PhD, au doctorat. Il y a la transition, on passe du secondaire au doctorat. La troisième marche, elle est intense. OK ? Troisième étape, c'est le don sacrificiel. Oh, il est marqué dans mes notes, ne t'attends pas à un amen. C'est parfaitement ce à quoi je m'attendais. Vous avez été sur la coche, extraordinaire. Parce que depuis tout à l'heure, quand je parlais de la dîme, toi tu disais, oh, je n'ai pas de problème, pasteur, prêche pour mon voisin, prêche pour ma voisine. Moi, je donne mon 10%, je suis à l'aise avec ce que tu dis. Preach, preach. Sauf que la dîme, le 10%, ce n'est pas une ligne d'arrivée, c'est un point de départ. C'est un point de départ. Et en Marc 12, on voit une histoire qui est bouleversante, que plusieurs peuvent vite passer parce qu'elle est intense, cette histoire. Et il est marqué au verset 41, « Jésus était assis vis-à-vis du tronc dans le temple. » Et le tronc, c'était là où est-ce qu'on déposait de l'argent. « Il était assis vis-à-vis du tronc et regardait comment la foule y mettait de l'argent. » De nombreux riches mettaient beaucoup. Puis une pauvre veuve vint aussi. Elle y mit deux petites pièces. Une toute petite. J'aime comment la Bible insiste sur le petite. Petite pièce. Petite somme. Pauvre veuve. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, « regardez dans ses mains, place qu'elle donne ce matin !» Non, il ne dit pas ça. Jésus dit aux disciples, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve, a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont pris de leur superflu pour mettre dans le tronc, tandis qu'elle, elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Et vite, on passe au chapitre suivant. J'aime pas trop cette histoire. Puis, j'aurais pas le temps d'étudier en détail chaque point de ce récit qui est bouleversant. Mais rapidement, la première leçon que ce passage nous apprend ici, c'est que Jésus voit ce que tu donnes. Jésus voit ce que tu donnes. Il voit le montant que tu donnes en fonction de ce que tu possèdes. Il voit la façon dont tu donnes, le cœur avec lequel tu donnes. Jésus voit ce que tu donnes, mais il voit aussi ce que tu ne donnes pas. En écrivant ça, j'étais comme, ça me picote un petit peu moi aussi. Jésus voit ce que tu donnes, mais il voit aussi ce que tu ne donnes pas. J'ai presque envie de m'arrêter là, puis vous dire, bon dimanche, soyez bénis. La deuxième leçon que ce passage nous apprend ici, deuxième leçon, c'est que Jésus n'a pas arrêté cette femme. Jésus n'a pas dit, Madame, tremblez, faites pas ça. Gardez-les vos deux pièces. Vous en faites pas. De toute façon, ça va pas faire de différence. Deux pièces, rien du tout. Il y en a qui ont donné tellement plus. Les autres, les riches, vont donner pour vous. Gardez vos deux sous. Vous en avez plus besoin. Gardez-les. Jésus n'a pas arrêté cette femme. Jésus n'a pas privé à cette femme la bénédiction de donner. Parce que c'est une grâce de pouvoir donner à Dieu. C'est une grâce de pouvoir réaliser « Je donne à celui qui m'a sauvé la vie ». Il y a une grâce à donner. Jésus n'a pas privé à cette femme la grâce de donner et la grâce de recevoir en retour. Parce que comme on l'a vu tout à l'heure, quand on donne à Dieu, il s'engage à nous donner en retour, à prendre soin de nous en retour. Jésus n'a pas privé cette femme de recevoir quelque chose de Dieu en retour pour son sacrifice. Il n'a pas arrêté cette femme. Mais au contraire, il a appelé les disciples. « Hey guys, venez voir. Venez voir. » Elle, là, elle a donné tellement plus que tous ceux qui ont mis les 10 000 pièces, les 50 000 pièces, les 100 000 pièces. Elle a donné tellement plus. Le montant que tu donnes n'impressionne pas Jésus. Ce qui le rend fier, c'est la manière dont tu le donnes. C'est quand tu fais un don sacrificiel. Et ça, ça le rend fier. Je me souviens un jour, en France, il y a quelques années de ça, j'étais dans une grande conférence de jeunes chrétiens. Il y avait quoi, 5-10 000 jeunes, c'était un week-end extraordinaire, vraiment grosse, grosse conférence. Puis à la fin de la conférence, dernier dimanche, dernier jour, puis avant le dernier chant d'appel, avant le dernier chant pour conclure, avant que tout le monde rentre chez eux, le pasteur qui organisait tout ça prend le micro, merci d'être là, merci ou bravo, wouhou, bon dimanche, etc. Puis il dit, mais avant de partir, on va faire passer des paniers parce qu'on a besoin de votre générosité. Parce que oui, vous avez payé votre billet, etc. Mais ça coûte tellement cher, tout ce qu'on a dû louer, tout ce qu'on a dû faire, tout ce que ça prend tellement de sous qu'on a besoin de vous. On a besoin de vous, aidez-nous s'il vous plaît. Donc ce que vous pouvez donner, s'il vous plaît, donnez-le. Puis on s'entend qu'il s'adresse à des jeunes. Et les jeunes, on n'a pas non plus énormément d'argent. Mais en tout cas, il tente le jeu, il tente le coup. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il a dit, puis sans vous forcer, je ne vous force pas. Mais si vous avez à cœur de donner tout ce qu'il y a dans votre portefeuille, je vous mets au défi de le faire. Puis, moi je me suis dit, ok, j'aime les challenges. J'y vais. J'ouvre mon portefeuille. Mince, beaucoup de billets. Dommage. Bon, j'ai dit que j'allais le faire, enfin que je le fais. Puis je compte. Ok, bon. 60 euros, à peu près 80 dollars. Ok. Seigneur, tout ce que j'ai, je te le donne. Puis à côté de moi, il y avait mon cousin. Mon cousin aussi, il est challengé. On se regardait tous les deux en mode, ok, on va tout donner. Puis lui, il ouvre son portefeuille et puis c'est comme s'il y a de la poussière qui sort. Pouf. Ah ! Puis il commence à sortir 2-3 sous comme ça, à dire, bon bah, c'est tout ce que j'ai. Et je le donne. Puis en voyant son don, je me suis pas dit « Oh Seigneur, regarde-moi à quel point je suis généreux. Regarde tout ce que je t'ai donné par rapport à mon cousin là. Pardonne-le, on est la même famille, mais écoute... Hein ? Pas tous au même niveau ? Non, j'ai pas dit quelque chose comme ça. Alors que je donnais, alors que l'offrande passait, comme si à l'intérieur de moi, je sentais profondément cette réalité qu'aux yeux de Dieu, nous avions donné exactement la même chose. Aux yeux de Dieu, on avait donné exactement la même chose. On avait fait tous les deux un don sacrificiel. On avait tous les deux donné tout ce qu'on avait en faisant confiance à Dieu. Puis ce matin, je te rassure, je ne vais pas te demander exactement la même chose. Il y en a qui sont prêts à jeter leur portefeuille loin. Je n'ai pas de portefeuille. Je te rassure, je ne vais pas faire la même chose ce matin. Je ne te dis pas de donner 100% de ton salaire. C'est à Dieu de te le demander ça. Mais je ne t'invite pas à donner 100% de ton salaire. Je te demande juste et je t'invite juste et je te challenge juste à donner plus que ton 10%. Plus que ton 10%. Peut-être que ça fait des années que tu donnes ta dîme, ton 10%. Le montant ne change pas, ça fait des années que tu donnes la même chose. Mais je ne crois pas que Jésus veuille de nous qu'on reste tous les jours au même stade de notre vie. Je crois qu'un jour à la fois, nous sommes appelés à grandir, à évoluer, à grandir en maturité. Et je crois que plus on avance, plus Jésus veut challenger notre foi, notre confiance en lui. Suivre Jésus, ce n'est pas censé être quelque chose de confortable. Suivre Jésus, ce n'est pas quelque chose où est-ce qu'on est dans le canapé, tout va bien, et puis c'est easy, c'est facile. Quand j'ai lu la Bible, je vois ça nulle part. Plus on avance dans notre vie de disciple, plus on grandit, plus on gagne en maturité, et plus Jésus en retour nous demande beaucoup plus. Plus on avance, et plus il va nous demander notre temps. Plus on avance, et plus il va demander nos prières. Plus on avance, et plus il va demander une meilleure maturité, une meilleure vie spirituelle, une meilleure générosité, une plus grande générosité. Plus on avance, plus il va nous en demander. Et c'est logique. Quand je prends ma fille, par exemple, qui a 15-16 mois, on est d'accord que je ne peux pas lui demander de vider le lave-vaisselle. On est d'accord que je ne peux pas lui demander de ranger sa chambre. On est d'accord que je ne peux pas encore lui dire « va aider ta mère au ménage pendant que je suis tranquille dans le canapé ». Je plaisante, j'aide ma femme au ménage. Je ne peux pas lui demander, c'est encore un bébé. Mais plus elle va évoluer, plus elle va grandir, plus je vais lui donner des responsabilités, je vais lui donner des engagements, je vais la challenger, je veux qu'elle grandisse en maturité, je veux qu'elle apprenne à faire des choses, je veux qu'elle évolue. Et c'est exactement avec notre vie spirituelle. Plus on avance, plus on grandit, plus on fait des pas avec Jésus, et plus il va nous en demander, plus il va nous demander de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant parce qu'on était encore trop jeune dans notre foi. Mais c'est ça la vie spirituelle. C'est la même chose pour nous. Si tu suis Jésus et que tu restes au même niveau de générosité année après année, ça veut dire que tu stagnes. C'est-à-dire que tu restes au même niveau, que tu ne grandis pas. Tu restes au même palier sans passer à l'étape supérieure, sans passer à un autre niveau. Nous sommes appelés à grandir dans notre marche spirituelle, dans notre maturité pour Dieu, jour après jour. C'est un pas à la fois, mais toujours vers l'avant. Où est-ce que tu te trouves ce matin? Sur quelle étape de l'escalier est-ce que tu te trouves ce matin? Sur quelle étape est-ce que tu te trouves aujourd'hui? Ce matin, je vais conclure par un challenge. Je veux challenger ce matin. Je veux être concret aujourd'hui. Peut-être que toi, tu donnes pas. Tu donnes pas en ce moment. Dieu a changé ta vie. Dieu a touché ton cœur. Tu es chrétien, tu suis Jésus, mais tu ne donnes pas. Tu donnes pas encore. Peut-être parce que tu dis, j'ai pas assez. J'ai pas assez. Tu limites peut-être ce que tu as. Qu'est-ce que Dieu va faire avec ce que j'ai? C'est ridicule. Jésus peut... Peut-être que toi, t'es fermé, t'as un cœur qui est froid, qui est totalement dur à l'idée de donner, parce que c'est comme... Non, mais Jésus peut avoir quelques dimanches matin, mais clairement pas mon portefeuille. Non, c'est pas possible. Toi, tu dis, non, mais moi, je vais pas donner à Nouvelle Vie Châteauguay, parce qu'ils font partie de Nouvelle Vie. Nouvelle Vie, ils ont les comptes bancaires dans les cieux, clairement... Je ne sais pas si tu le sais, mais chaque site Nouvelle Vie est indépendant de Longueuil, financièrement. Fait que c'est vous qui payez les factures de Nouvelle Vie Châteauguay. Hein. Ce n'est pas Longueuil, c'est nous. tous ensemble, en tant qu'Église. Peut-être que toi, tu dis, non mais moi, nouvelle ville, l'Église locale, ça ne me parle pas. Va donner dans une autre Église locale. Va donner dans une autre Église locale. Tant que tu donnes à Dieu. Tant que tu donnes à Dieu, c'est ça le point le plus important. Il faut que tu donnes à Dieu. Si tu ne donnes pas ce matin, je veux te challenger. Commence à te dire, ok, $1 par jour, je donne à Dieu. Un dollar. Ça fait $7 par semaine. Plus il y en a, je vous ai dit, mais $1 par jour, comment je peux te donner un peu plus? Très bien, donne $10 par semaine. Mais commence quelque part. Sois assidu. Commence à quelque part et tiens-toi à ce que tu fais, puis vois comment Dieu va changer ta vie jour après jour. Dieu va commencer, mais il faut que tu commences toi aussi. Peut-être que toi, tu es au premier palier. Tu donnes quand ça te touche. Tu es au premier palier. Mais je veux te challenger ce matin. Comme disait Pasteur Stephen la semaine dernière, plus d'excuses, il est temps de passer à la stratégie. Il est temps d'être plus régulier. Plus régulier, en mode, ok Seigneur, maintenant, j'étais spontané, maintenant je vais être stratégique. À chaque fois que je reçois ma paye, 5%, 7%, 9%, 10% de mon salaire, je te le donne en premier. C'est à toi seul. Je vais prévoir un virement automatique, je vais le noter dans mon agenda, je ne vais pas oublier, je vais me tenir parce que je ne veux pas négliger ça dans ma vie spirituelle. Je veux grandir en maturité. Puis pour d'autres, toi, tu donnes ta dîme depuis des années. T'es fidèle, année après année. Et merci pour ça, pour ta confiance, pour ta générosité. Mais ce matin, je veux te challenger à passer à l'étape 3. Et peut-être que ça va se traduire par 10%, comme tu donnes aujourd'hui, mais un peu plus. Peut-être que ce sera $1 par jour, $10 par semaine, $100 par mois, 1000, peu importe ce que c'est, peut-être au lieu de ce soit 10%, ce sera peut-être 10,5%. Je commence petit à petit. Allez, j'ajoute un 0,5 ou j'ajoute un autre pourcent, 11% par mois. Peu importe ce que c'est, commence à chercher à grandir dans ta générosité. Commence à se dire, je veux aller plus loin dans ma marche avec Jésus. Je veux grandir en maturité spirituelle. Quand Netflix augmente, on n'a pas de misère à payer plus. Quand Jésus nous appelle à aller plus loin vers lui, il faut répondre à son appel. Que chacun donne, Paul nous a dit. Que chacun donne. Fait que c'est ça mon défi. C'est ça mon challenge pour nous. $1 par jour pour toi, Seigneur. $10 par semaine, 100 par mois, 1000, 11, 12, peu importe. Peu importe. Commence à donner stratégiquement. Commence à donner généreusement. Que nous soyons cette église, que quand Dieu regarde Nouvelle Vie Châteauguay, qu'il ne voit pas une église avec des gens le poing fermé. Qui ne voit pas ses disciples avec le poing fermé, avec une main qui retient. Qui ne voit pas cette église-là avec des gens qui sont comme « Non, 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 je n'en ai pas plus, Seigneur. » Mais que lorsque Jésus voit et regarde Nouvelle Vie Châteauguay, qu'il puisse voir des mains tendues. « Seigneur, prends tout. Prends tout. Tout ce que j'ai de meilleur. Tout ce que je suis. Prends tout. C'est à toi. Tout est à toi. Tout est à toi. » Commence à prier ce matin. Qu'est-ce que t'attends de moi, Seigneur? Qu'est-ce que t'attends de ma vie? Puis peut-être que t'es là pour la première fois. T'es là pour l'une des premières fois. T'as été invité ce matin. Puis la personne qui t'a invité, ça fait 30 minutes qu'elle est à côté de toi, qu'elle dit « Pourquoi, pasteur, tu prêches sur la générosité alors que j'ai réussi enfin à le faire venir à l'église ?» Désolé à propos de ça. C'était là pour l'une des premières fois ce matin. Et tu dis, oh boy, encore une religion qui veut mon argent. Encore un Dieu qui veut mes sous. C'est que t'as pas compris mon message. Dieu veut pas ton argent. Il veut ton cœur. Je m'en fiche que tu donnes ce matin. Pèse mes mots, je m'en fiche que tu donnes ce matin. Je veux que Jésus ait ton cœur. C'est ça que je veux. C'est exactement ça que je veux. C'est qu'on soit des disciples. Et instinctivement, le disciple donne. J'ai aucun doute là-dessus. C'est pour ça que je veux que ma priorité, c'est que Jésus ait notre cœur. que Jésus est ton cœur. Puis peut-être que c'est nouveau, tu dis, mais pourquoi est-ce que tu parles de donner? Pourquoi est-ce que vous êtes si passionné à vouloir donner? Pourquoi est-ce que vous voulez donner? Nous donnons parce que Dieu nous a tout donné. Nous donnons parce que Jésus nous a tellement donné. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu a donné son Fils unique. Jésus a quitté son ciel de gloire, de richesse extraordinaire, des richesses qu'on ne peut même pas imaginer. Il a tout quitté pour venir ici, vivre en tant qu'homme, dans une misère, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il a été habitué, il a vécu dans la souffrance, dans la misère, dans la pauvreté. Il a tout quitté. Il a vécu une vie parfaite, sans jamais pécher, pour être le sacrifice parfait à la croix. Parce qu'à la croix, c'est pas juste un homme qui est mort. C'est Dieu qui a payé le prix de nos péchés. Et en échange, il nous a offert le pardon. En échange, il nous a offert la grâce d'être sauvés. En échange, il nous a offert la possibilité d'être appelés enfants de Dieu. En échange, tous les péchés sont effacés. Vers ceux de ceux qui viennent à Christ et qui disent « Pardonne-moi, les péchés sont effacés. » Immédiatement. Immédiatement. Jésus est mort sur la croix pour que notre culpabilité, notre honte, toutes les erreurs, tous les péchés passés, présents et à venir qu'on va faire, pour que tout ça soit effacé. Jésus a tout donné. Il a tout, tout, tout donné. C'est pour ça qu'on veut lui donner en retour. C'est pour ça qu'on veut lui donner en retour. Si nous donnons, c'est parce que nous avons tout reçu. Si nous donnons, c'est parce qu'il nous a tout donné. Si nous donnons, c'est parce qu'il nous a aimés. Et il nous aime encore. Ce message, ce matin, ce n'est pas pour amasser de l'argent, mais c'est qu'on puisse tous grandir en tant que disciples. Qu'on puisse tous chercher à ressembler encore plus à Jésus, à notre Sauveur. Jésus t'a tout donné. Alors donnons-lui tout en retour. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Est-ce qu'on peut se lever ce matin, s'il vous plaît, avant de passer à la louange? Avant de passer à l'adoration, puis avant de retourner dans notre quotidien, dans le tourbillon de notre vie, si vous êtes à l'aise, je vous invite juste à tendre les mains, comme un signe d'abandon. Comme un signe, si tu es à l'aise, comme un signe d'abandon, je m'abandonne encore à toi, Seigneur. Je m'abandonne encore à toi, Jésus. Fais ce que tu veux de moi. Seigneur Jésus, merci de nous avoir sauvés. Merci de nous avoir aimés. Merci de nous avoir pardonnés. Je te remercie, Jésus, de vouloir nous aider à grandir. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ton amour, de ton esprit pour qu'on puisse continuer à grandir. Merci d'être patient avec nous parce que parfois on est tellement long dans notre apprentissage. Mais tu es patient envers nous. Je te prie, Jésus, contre tout sentiment de culpabilité par rapport à ce message. Je te prie que personne ne donne par sentiment de culpabilité ce matin. Mais que chacun puisse donner par envie de te donner comme tu as tout donné. Viens nous aider à grandir dans notre abandon à toi, dans notre foi en toi, dans notre maturité spirituelle, dans notre marche de disciple. Viens nous aider à grandir. Aide-nous, Jésus, à être généreux, à te donner, Jésus, la première place, pas seulement dans les finances, mais dans chaque aspect de nos vies. Prends la première place. Enlève ce qui est à ta place. Enlève les idoles de nos cœurs. Enlève notre ego, notre sentiment de supériorité. Enlève-nous et prends cette première place, Jésus. Aide-nous à être généreux. Aide-nous, Jésus. Puis ce matin, je veux aussi te prier, Père, pour que tu puisses te révéler à toutes les personnes qui ne te connaissent pas encore ce matin. Révèle-toi à eux. Que ton esprit vienne les percuter. Que ton amour vienne les transformer. Que ton amour vienne leur révéler toute la plénitude de ta grâce, de ta fidélité, de la beauté de la croix. Viens, Jésus, te révéler à eux. Sauve leur cœur. Sauve leur vie. Change-les. Transforme-les ce matin. Montre-leur que tu as tout donné pour les sauver aussi. Parce que tu les aimes, Seigneur. Merci Jésus, merci pour ce privilège de donner, merci pour ce privilège que tu nous donnes de nous bénir en retour quand on te met en premier dans nos vies.
Et Père, avant que de retourner dans notre vie habituelle, on veut prendre ce temps, Jésus, pour se reconsacrer à nouveau. Et prendre ce chant qui dit « De tous nos cœurs, nous t'offrons tout, Seigneur. De tous nos cœurs, parce que tu as tout donné pour nous, nous t'offrons tout, Seigneur. » Alors reçois le meilleur de nos vies, le meilleur de nos finances, de notre temps et de notre louange. Parce que seul toi es digne d'être loué et d'être célébré. Et que l'Église dise un dernier grand « Amen » à ça. Est-ce qu'on peut acclamer l'amour de Jésus ce matin ?